Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Anne Cantner.
Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
Bienvenue sur Accent d'Europe, une élection présidentielle en Russie basée sur la répression et l'intimidation. Commentaire sans appel de Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Officiellement, Vladimir Poutine a été réélu avec 87% des suffrages.
Oui, aucun candidat notable pour l'opposition et une presse bâillonnée ou en exil. De Medusa à Insider, en passant par Dojd et Novaya Gazeta, de nombreuses rédactions continuent pourtant leur travail d'enquête sur les dérives du régime, sur la société russe et la guerre en Ukraine. Franceline Beretti.
Parmi les médias russes en exil, le plus célèbre est la Novaya Gazeta. C'était le journal d'Anna Politkovskaya, assassinée en 2006 pour ses reportages critiques sur la Seconde Guerre de Tchétchénie. D'ailleurs, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, en 2000, 6 de ses employés ont été tués. En 2022, une partie de l'équipe en exil a créé Novaya Gazeta Europe, en Lettonie. La rédaction continue de diffuser son travail sur Internet et de s'impliquer directement dans la politique. Le prix Nobel de la paix et fondateur du journal, Dimitri Mouratov, s'est personnellement adressé au pouvoir pour qu'il rende le corps d'Alexeï Navalny, quand il le retenait encore.
C'est honteux de devoir parler de cela dans un pays qui se considère encore comme chrétien orthodoxe. Rendez juste le corps de Navalny à sa mère, Ludmila. Rendez-le tout simplement. Il n'y a aucune autopsie, aucun examen médical, aucun examen post-mortem qui nécessiterait plus de 2 semaines.
La grande question, c'est de savoir si ces médias en exil réussissent à toucher des Russes saturés de propagande officielle. Oui, répond Denis Kataev. Il est journaliste pour la chaîne de télévision russe indépendante Dojd, elle aussi en exil. Selon lui, 70% des personnes qui regardent Dojd sont des Russes de Russie.
Le but pour nous, c'est d'informer les gens qui sont là-bas. On a déjà pas mal d'abonnés sur YouTube, par exemple. 4 millions d'abonnés. C'est possible de regarder Dojd toujours en Russie et nous ressentons le besoin, les demandes d'information. Nous travaillons pour les gens comme ça. Bien sûr, la plupart, ils habitent dans les grandes villes. Mais tout est possible parce que YouTube fonctionne toujours en Russie. Telegram, c'est les réseaux sociaux très importants.
YouTube et Telegram sont des exceptions. Facebook, Instagram sont bannis. Et pour répondre à la censure, la BBC est même revenue à la radio à l'ancienne, aux ondes courtes. Sonia De Villers le racontait sur France Inter en 2022.
This is the BBC in Beijing. Kampala.
Reykjavik.
Delhi.
Alors pourquoi la BBC ressuscite-t-elle les ondes courtes? Eh bien parce qu'en Europe de l'Est, les appareils qui les reçoivent sont encore en circulation. En outre, vu le contrôle que le Kremlin exerce sur l'Internet, il faut trouver d'autres canaux de diffusion. La Russie a bloqué les sites web de la BBC, ceux de Radio Liberty, ceux de Voice of America qui sont financés par le gouvernement américain.
Et celui de RFI. Cette question d'Internet est évidemment cruciale pour les journalistes russes en exil. Le site Medusa, autre site d'information indépendant, raconte qu'il fait face à des cyberattaques inédites ces derniers jours. Le Kremlin est nerveux avec l'élection présidentielle. Ce média s'est intéressé à une transaction qui vous a peut-être échappé. Elle concerne Yandex, le moteur de recherche le plus utilisé en Russie. Le Google local, quoi.
Les gars, c'est enfin arrivé. Après un an et demi de négociations, le fondateur de Yandex, Arkady Volosh, et les actionnaires étrangers de la société sont parvenus à un accord pour se séparer des actifs russes de Yandex.
En résumé, le Kremlin a pris le mois dernier le contrôle direct du principal moteur de recherche du pays. C'est d'autant plus essentiel que les sites d'investigation russes ne manquent pas. Il y a Mediazona, Agentsvo ou Radio Svoboda, tout en russe.
Подробнее об этих и других событиях понедельника, 11 марта, расскажу вам.
Ou encore Проект, qui fait de l'analyse de données. Dernièrement, il a sorti une enquête selon laquelle plus de 100 000 personnes ont été condamnées pour des motifs politiques ces 6 dernières années en Russie. Проект estime que cela dépasse le bilan de Khrouchtchev et de Brejnev réunis à l'époque soviétique. Il avance aussi que si l'on ajoute les personnes punies pour avoir désobéi aux forces de l'ordre ou violé les restrictions du Covid, la répression est encore plus large. Bref, il change notre point de vue selon lequel personne ou presque ne résiste en Russie. Il y a aussi le média The Insider, qui collabore à d'autres rédactions.
Le Monde, en partenariat avec Bellingcat et The Insider, a obtenu des mails internes à la branche russe d'Auchan et collecté des images sur les réseaux sociaux. Ces documents révèlent que des produits vendus par les deux entreprises...
Ces entreprises, ce sont Auchan et Leroy Merlin.
Des produits vendus par les deux entreprises alimentent et équipent les soldats de Vladimir Poutine sur le front ukrainien.
Ces journalistes russes font un travail admirable parce qu'ils risquent très gros. Et un travail utile en dehors du cercle russe. Ils nous livrent des informations que nos médias nationaux ne veulent pas toujours traiter. The Insider a ainsi prouvé que la société italienne Beretta fournit encore des armes à la Russie de façon détournée, et le sujet n'a pas du tout été évoqué par les principaux médias italiens.
La question de la réparation des victimes de l'esclavage en Angleterre, l'Église anglicane a décidé de multiplier par 10 son fonds d'indemnisation. Mais il va falloir pour cela en passer par de généreux mécènes, Marie Billon.
L'Église d'Angleterre a décidé de faire son mea culpa en monnaie sonnant et trébuchante. L'Église d'État avait déjà mis de côté 100 millions de livres sterling de ses propres deniers pour un fonds pour la cicatrisation, la réparation et la justice après avoir participé à la mise en esclavage de dizaines de milliers de personnes, principalement en Afrique et aux Caraïbes, jusqu'au 19e siècle. Mais pour vérifier si cela suffirait à expier le péché, l'Église a aussi mandaté un rapport indépendant. Verdict, la contrition pécuniaire n'est pas assez grande, la somme doit être multipliée par 10, 1 milliard de livres sterling donc.
Et alors comment l'Église a-t-elle réagi ?
Alors la commission en charge au sein de l'Église a accepté ces recommandations, mais malgré tout Canterbury ne mettra pas la main à la poche pour augmenter les coffres du fonds. Il s'agit plutôt de faire appel aux bonnes volontés ou au sentiment de culpabilité d'autres institutions qui ont été complices de la mise en esclavage ou bien encore des personnes qui sont révoltées par l'injustice et veulent contribuer à la lutte contre les inégalités raciales. Selon les médias britanniques, l'Église va donc sonner à la porte de fonds de pension, de fonds souverains, de fondations et d'individus fortunés. Notamment, cet argent ne sera pas utilisé pour des compensations individuelles ni destiné aux agences gouvernementales des pays concernés, mais sera investi pour soutenir des projets entrepreneuriaux, éducatifs, des recherches historiques ou encore dans le domaine de la santé. C'est ce que dit le rapport. La commission de l'Église anglicane espère que cette initiative servira de modèle pour que d'autres institutions se penchent sur leur passé et améliorent la situation des communautés impactées aujourd'hui encore.
Mais alors justement, Marie, quelle a été l'implication de l'Église d'Angleterre dans l'esclavage ?
Alors, principalement, c'est dû à une large somme appelée le Queen Anne's Bounty, donnée à l'Église en 1704. On parle de milliards de livres sterling qui provenaient notamment d'investissements dans la South Sea Company, qui faisait commerce de personnes soumises en esclavage, 34 000 individus sur 30 ans. L'argent a notamment servi à rémunérer les membres du clergé, et en acceptant cet argent, l'Église a fait comprendre que les âmes des Africains valaient moins que les autres, puisqu'elle n'a pas combattu l'esclavage ni la traite dès le début, et en a même donc bénéficié. Canterbury insiste aujourd'hui sur le fait que ces choix historiques ont toujours pour conséquence aujourd'hui pauvreté, injustice et manque d'opportunités dans les pays du Sud.
Merci Marie Billon à Londres.
Recycle,
c'est magique,
c'est le cycle de la vie.
Recycle,
c'est magique,
faut pas que tu l'oublies.
Recycle,
c'est magique,
c'est le cycle de la vie.
Recycle,
c'est magique,
faut pas que tu l'oublies.
46% des déchets textiles de l'Union européenne se retrouvent en Afrique avec des conséquences désastreuses sur l'industrie locale et sur l'environnement, à cause notamment de ces décharges à ciel ouvert.
En Espagne, un des grands pays de la fast fashion, le grand groupe Inditex, tente de lancer une pratique vertueuse en créant toute une filière de réutilisation et de recyclage du vêtement. Près de Barcelone, l'usine Modare s'occupe justement de cela. Elle va doubler ses capacités de production. C'est le reportage d'Élise Gazangel.
Toute la journée, dans cette usine de la banlieue de Barcelone, des centaines de sacs plastiques sont éventrés pour libérer des vêtements usagés déposés dans des conteneurs par les habitants. Au total, 37 000 kilos de vêtements sont triés dans cet entrepôt chaque jour. Sur la première ligne de tri, les vêtements contaminés ou tachés sont immédiatement séparés. Albert Tabéric, directeur de l'entreprise Modaré, nous fait la visite guidée.
Ce qui est refusé est revalorisé énergétiquement dans une centrale d'électricité thermique qui fonctionne grâce à l'incinération. On ne jette plus rien dans les décharges depuis des années.
En moyenne, 6% des textiles sont ainsi écartés dès le début du processus de tri. Le reste est classé par type de vêtements et par niveau de qualité.
Sur cette ligne de pantalon, par exemple, l'employé regarde des points clés du vêtement pour décider s'il est réutilisable et dans quelle catégorie. La meilleure qualité ira dans ces caisses qui partiront dans nos magasins de seconde main et le reste réutilisable, qui est une majorité, plus de 50% de ce qui nous arrive, est ce qu'on exporte en Afrique.
Sénégal, Cameroun, Ghana, Gambia.
Des exportations destinées à la réutilisation, assure-t-il, et qui n'ont pas vocation à finir dans les dépotoirs géants qui font polémique depuis plusieurs années.
Ces vêtements sont vendus à un prix plus élevé parce que nos clients vont les revendre. Ils ne paieraient pas si c'était des déchets. Ceux qui envoient leurs déchets là-bas, c'est pour éviter de payer des taxes européennes de recyclage. Nous, on a la traçabilité de tout ici.
Quant aux plus de 30% restants considérés comme recyclables, la majeure partie est aujourd'hui exportée en Asie du Sud-Est pour se convertir en isolant acoustique ou thermique pour diverses entreprises, notamment dans le secteur de l'automobile. En vue d'une prochaine législation européenne qui réduira ou interdira l'export de ces textiles recyclables hors d'Europe, Modaré est désormais doté de nouvelles machines permettant de détecter précisément et en une seconde la composition du textile pour une meilleure réutilisation. Grâce à elle, l'objectif est de réutiliser en Europe cette fois 70% des textiles exportés aujourd'hui en Asie. Une technologie coûteuse entièrement financée par Inditex, le géant de l'industrie de la fast fashion, à qui appartient notamment Zara.
Je ne pense pas que ce soit du greenwashing. Le greenwashing, c'est de parler sans rien faire. Mais là, ils agissent avec des projets majeurs. Ils sont conscients du problème. Ils misent beaucoup pour ne plus être seulement une partie du problème, mais aussi désormais la solution.
Pour l'experte en mode respectueuse de l'environnement et créatrice de l'entreprise de formation Slow Fashion Next, Gemma Gomez, l'investissement des grandes marques dans le recyclage textile est une fausse bonne idée.
En soi, cela peut être positif, mais seulement si cela s'accompagne d'une réduction de la production. Si ce n'est pas accompagné d'une prise de conscience, d'une consommation raisonnée, s'ils continuent à mettre des milliers de produits en vente tous les jours, cela ne sert à rien. Ce devrait être une solution, mais pas éloignée de tout le reste.
Cette ancienne styliste pour de grandes marques a changé de vie il y a plus de 15 ans, écœurée par les entrailles du secteur, après plusieurs visites d'usines de fabrication à l'étranger. Aujourd'hui, elle milite pour une législation qui aiderait surtout les marques respectueuses de l'environnement.
Celui qui fait bien les choses, qui internalise les coûts, doit en plus avoir une étiquette qui garantit qu'il est éthique. Un label qui lui coûte des milliers d'euros. Et il sera en concurrence avec toutes les autres marques. C'est une situation injuste. Alors soit on commence à réguler d'une autre manière, soit ce sera très difficile.
De son côté, Albéric est conscient de ne pas apporter une solution intégrale, mais il souligne l'intérêt social de son entreprise qui emploie des personnes en risque d'exclusion.
Nous sommes une partie de la solution, mais certainement de la taille d'un petit pansement. Mais savoir que ce petit pansement est appliqué par des personnes en risque d'exclusion, c'est déjà un motif de satisfaction.
Un pansement qui chaque jour devient plus grand, Modaré devrait doubler sa capacité de tri des tissus d'ici à l'année prochaine et prévoit d'ouvrir deux nouvelles usines d'ici à 2025.
Et en Afrique, au Ghana, mais aussi en Côte d'Ivoire, l'exportation des vêtements de seconde main par les Européens vient bouleverser toute l'économie des entreprises de couture locale. À Abidjan, Binta Diane s'est rendue au marché de Yopougon Kouté, l'une des plus grandes friperies de la capitale économique du pays.
Des shorts, des pantalons, des jupes sont entassés sur plusieurs tables en bois. Il y en a pour tous les goûts. Des vêtements pour adultes accrochés sur des cintres, du prêt-à-porter pour les femmes et des montagnes de body et de petites robes pour enfants. Marina, une vendeuse, s'approvisionne auprès des importateurs de marchandises venant d'Europe installés à Adjamé.
Premier choix, la qualité est bonne, donc ça peut coûter peut-être 130 000 francs CFA. Deuxième choix, c'est 60 000 francs CFA. Bon, là, il n'y a pas trop de trucs dedans, il n'y a pas de bonnes choses dedans, que ça, les pullovers d'enfants, jogging.
Les habits se vendent entre 30 centimes d'euros et 1,50 euros. La demande n'est pas toujours stable, selon cette vendeuse.
Un peu du même, c'est pendant les fêtes, ça marche, mais après les fêtes, de toutes les façons, on arrive à s'en sortir, on fait un peu, un peu.
Quelques mètres plus loin, Flore Morgan, une jeune, essaie une jupe. Elle a déjà sélectionné plusieurs vêtements. Cette étudiante en est persuadée. C'est ici qu'elle peut faire de bonnes affaires.
J'étais venue pour chercher des chemises, mais bon, comme il y a beaucoup de choix, donc je suis tombée un peu sur des jupes là maintenant. J'ai eu des jupes, j'ai eu des chaussures, j'ai eu des chemisiers. Donc voilà, tout ce que je vois, je prends. C'est pas cher.
C'est entre combien et combien ?
À partir de 300, 500 000 francs.
Et alors, pourquoi est-ce que vous n'achetez pas tout ça, ces jupes, etc., ces chemisiers, dans une boutique ?
Ah, ça dépend du budget. Et puis, de, on va dire, entre griffes, la classe sociale. Parce que ce genre de choses, tu vas les retrouver dans un magasin. Ce sera beaucoup plus cher. Pourtant, c'est la même qualité.
Au fil des ans, l'offre s'est diversifiée. Parmi les nouveaux articles, figurent des produits haut de gamme, comme des robes de mariée.
On a princesse. On a sirène aussi, les robes avec traîne, tout, il y en a.
Aoué Marina détaille les prix de chaque robe.
Les friperies comme ça, ça varie de 30 à 50 000. Il y a d'autres qui préfèrent friperies, il y a d'autres qui préfèrent prêt-à-porter.
Selon Daouda, le gérant de ce commerce, chaque balle peut contenir jusqu'à 40 robes. Mais en découvrant ces marchandises, avant de les exposer en boutique, il y a encore un tri à opérer.
Ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas. Voilà, tu peux déballer. Tout ce qu'il y a dedans, là, il n'y a pas ce que est joli. Ou bien tu trouves 10, tu peux trouver 5. Il y a des trucs dedans, il y a des robes dedans, on jette. Donc si c'est plus à la mode, les clients n'ont plus besoin de ça.
Alors, chaque pièce, on doit être repassé. Il faut toujours repasser pour tant de tissus, pour ne pas qu'il y ait des défauts au montage.
Dans son atelier, Reda Fawaz travaille sur une commande de robes de mariée. Ce styliste de haute couture conçoit des pièces uniques avec des tissus de qualité, triés avec soin. C'est un travail délicat qui demande du temps et qui intéresse une clientèle moins importante qu'avant, car la friperie bouleverse les habitudes des Ivoiriens.
Ça a un impact sur le chiffre d'affaires, ça il faut le savoir, parce que, on va dire de 2010, on est en 2024 aujourd'hui, on va se dire qu'on a une baisse de chiffre d'affaires à peu près de, sur le plan couture, moi je peux calculer 70% à peu près.
En Côte d'Ivoire, les usines textiles ont fermé en raison de crises structurelles. L'attrait pour la friperie déstabilise plutôt les petits corps de métier, selon le professeur Salif Kone, qui dirige le département de sciences économiques à l'université de Cocody.
Les importations de friperie, la valeur maximale est de l'ordre de 22 milliards 300 millions en 2022. Bon, à 22 milliards, oui, ça pourra avoir un impact macroéconomique. Mais son impact le plus fort devrait se trouver au niveau microéconomique. Ça devrait avoir des impacts sur les couturiers des quartiers, voilà, proches, l'économie de proximité, quoi. Puisque ça peut évidemment arriver à faire en sorte que certaines de ces personnes puissent avoir une activité qui fasse faillite. C'est-à-dire que ça peut jouer un rôle de substitution à ce niveau.
Tout récemment, United Aryan Limited, une firme kenyane, a annoncé un projet d'investissement de 350 millions de dollars pour relancer la filière textile ivoirienne dans le centre du pays.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. L'information continue sur RFI.